Les séminaires du Collège de France.
Bonjour à tous à nouveau et donc aujourd'hui et bienvenue à cette deuxième séance du séminaire autour des structures de contrôle. Et donc aujourd'hui nous allons continuer une petite série commencée la semaine dernière avec l'exposé de Caroline Collange que je pourrais appeler les métamorphoses du contrôle. Donc une fois qu'on a du contrôle dans un langage de programmation, qu'est-ce qui devient lorsqu'on passe dans les compilateurs puis la génération puis dans l'architecture matérielle. Et donc pour nous parler de la partie compilateur, nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Demange qui est maîtresse de conférence à l'université de Rennes et exerce fait sa recherche au laboratoire IRISA, comme Caroline Collange la semaine dernière, et donc qui est une spécialiste de compilation et de vérification formelle des compilateurs, et donc qui va nous parler de différentes représentations intermédiaires utilisées dans les compilateurs et comment chacune traite le contrôle. Merci.
Merci. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de ce qui se passe à l'intérieur des compilateurs. Alors, dans cet exposé, je vais surtout parler des compilateurs pour des langages impératifs, parce que c'est ce sur quoi j'ai travaillé essentiellement. Donc, globalement, un compilateur, on peut le découper en trois morceaux, de manière assez grossière. D'abord, il y a la face avant. Voilà, qui s'occupe de transformer le texte du programme en déjà une représentation intermédiaire, une représentation du programme, souvent sous la forme d'un arbre de syntaxe abstraite, donc l'AST. Et donc ça, c'est fait dans la face qu'on appelle avant. À l'autre bout du compilateur, il y a la face arrière qui s'occupe de la générer le code pour l'architecture matérielle cible. Et au milieu, on trouve ce qu'on appelle, je n'ai pas réussi à traduire, le middle end, où on opère certains traitements, la plupart, plus ou moins indépendants, à la fois du langage source et du langage cible. Et c'est c'est dans cette partie-là du compilateur qu'on va trouver des représentations donc intermédiaires. Donc on peut voir les représentations intermédiaires de programme comme simplement une étape de compilation, une étape de la transformation d'un langage vers un autre, donc source vers cible. Et en fait, c'est là que vont avoir lieu la plupart des analyses du programme et de ses optimisations. Et donc la représentation intermédiaire, c'est là aussi qu'on va devoir, c'est dans ce format-là qu'on va devoir transformer le programme sans bien sûr en changer la sémantique. Et donc, d'un certain point de vue, les langages, les représentations intermédiaires ne sont ni des langages dans lesquels on programme, au niveau source, ni des programmes écrits dans un langage exécutable par une architecture, mais ce sont des langages dans lesquels on peut facilement analyser et transformer et optimiser les programmes. Donc, ce sont des langages d'optimisation de programme. Et de ce fait, il y a quand même des enjeux sémantiques importants qui se jouent. Il va falloir savoir expliciter l'information qui est déjà présente dans le programme pour pouvoir la rendre accessible aux analyses et aux optimisations. Et comme on va le voir dans cet exposé, il faut voir une représentation intermédiaire comme plus qu'une simple structure de données auxiliaires qu'utilise le compilateur. Ça doit être un reflet fidèle du programme sous compilation, et donc on aimerait pouvoir le doter d'une sémantique. Alors on n'a pas toute la marge de manœuvre qu'on souhaite, puisque une représentation intermédiaire, elle se tient entre le langage source et le langage cible. Donc les choix qu'on va pouvoir faire, les choses qu'on va devoir refléter dans cette représentation intermédiaire sont fonction de ce qu'on doit faire, de ce qu'on récupère en entrée, de ce qu'on doit produire en sortie. Et évidemment, il y a un problème important de correction sémantique, c'est-à-dire qu'il faut assurer que la transformation, l'optimisation qu'on fait sur le programme ne modifie pas le comportement du programme source. Et donc, il y a un critère de raffinement sémantique qui doit être maintenu au fur et à mesure de toutes les phases de compilation, donc du langage source, en passant par les représentations intermédiaires, avant, après l'optimisation, et puis jusqu'au langage cible. Donc il y a une représentation intermédiaire qui est très connue et qui est disponible depuis à peu près les années 70 et qui est devenue absolument incontournable dans les compilateurs optimisants pour les langages impératifs, et c'est le graphe de flow de contrôle dont vous avez déjà entendu parler lors d'un cours précédent. Donc, sur la gauche, je mets un petit programme impératif très simple, exemple, et puis à droite, sa représentation sous forme de graphe de flow de contrôle. Donc, dans chacun des sommets du graphe de flow de contrôle, je trouve des instructions ici, et les arcs du graphe de flow de contrôle pointent vers les successeurs directs à l'exécution de cette représentation de programme. Alors, dans le graphe de flow de contrôle, justement, le flow de contrôle, en fait, est ici séquentiel et complètement explicite, c'est-à-dire que je dois exécuter une instruction à un point de programme, puis le successeur direct. Et déjà, dans ce graphe de flow de contrôle, on a déjà une représentation de tous les chemins possibles d'exécution du programme qu'on avait en entrée. Alors, dans cet exposé, je vais uniquement considérer les graphes interprocéduraux, c'est-à-dire où... alors là, je n'en ai pas, mais si j'avais des instructions qui réalisaient des appels de fonctions, ces appels de fonctions seraient vus comme des instructions de base. Donc, du point de vue du graphe de flow de contrôle, je pointerai directement vers le successeur de l'appel de fonction et je ne déroulerai pas l'appel de fonction. Donc, justement, le point de départ de cet exposé, c'est le graphe de flow de contrôle, donc intra-procédural, sur lequel on réalise déjà beaucoup d'analyses et d'optimisations. Et en fait, il y a quand même certains problèmes qui ont été rencontrés en travaillant sur cette représentation intermédiaire, notamment en termes de coût, de précision des analyses, et donc de potentiel d'optimisation sur le programme. Il y a aussi un autre aspect qui est la rigidité sémantique, on en reparlera peut-être un petit peu au cours de l'exposé. Et pour répondre en fait à ces difficultés-là, il y a beaucoup de représentations intermédiaires qui ont été proposées. Je vais vous en présenter quelques-unes qui sont les plus emblématiques de mon point de vue et qui ont commencé à apparaître à partir des années 90 et qui ont été spécialement conçues pour justement régler les limitations qu'on avait à optimiser directement un graphe de flow de contrôle. Et puis, un petit peu plus tard, après un certain temps, ça a été diffusé dans à peu près tous les compilateurs de référence qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc LLVM, GCC, il y a aussi des compilateurs dynamiques, donc juste à temps. Et puis il y a certains compilateurs que je mentionne, ici Concert, Vellum et puis Concert SSA, parce qu'il y a un certain prisme que je vais donner à cet exposé qui est celui de la vérification formelle des compilateurs. C'est mon domaine de recherche. Donc ça a commencé à vraiment décoller à partir des années 2010, donc un certain temps encore avant toute cette apparition là dans les compilateurs de référence. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment eu une compréhension sémantique très fine et très précise de ce qui se passait réellement dans les compilateurs. Donc très très rapidement, qu'est-ce que c'est que la compilation vérifiée ? On s'intéresse et on étudie les principes fondamentaux des techniques et des algorithmes qui sont utilisés en compilation. Et ça se fait au travers d'une formalisation mathématique. Donc on exprime la sémantique des langages, des représentations intermédiaires. Et ce qu'on cherche à identifier, ce sont les propriétés sémantiques de ces objets-là. Et aussi dégager certains principes de raisonnement et le principe de preuve. Alors souvent, les preuves, on les fait dans un assistant à la preuve. Personnellement, je travaille avec l'assistant de preuve Coq. Et dans quel but on fait ça ? Déjà parce que c'est passionnant. Donc ça nous apporte une compréhension fine et profonde de ce qui se fait dans le folklore des compilateurs tels qu'on peut les trouver sur étagère. Et la mécanisation qu'on fait dans les assistants de preuve, en fait, nous donne très très peu d'angle mort dans les raisonnements qu'on peut faire. Et donc ça lutte un petit peu contre les intuitions et les parfois fausses qu'on a sur les critères de correction de ce qu'on fait dans les optimisations. Et d'un point de vue général, tous ces résultats-là, en fait, alors certes, ils renforcent la confiance qu'on peut avoir dans les compilateurs traditionnels. Ça donne des compilateurs qui sont formellement vérifiés vis-à-vis de la sémantique du langage source et cible. Mais tous ces travaux-là, en fait, ils donnent des avantages aussi dans le contexte non vérifié pour comprendre davantage ce qui se passe à l'intérieur des compilateurs. Donc je vais commencer par le graphe de flow de contrôle et puis faire quelques petits rappels sur cet objet-là. Donc le graphe de flow de contrôle, j'ai donné une représentation graphique. En fait, ce qu'on peut manipuler, c'est juste un graphe qui à chaque nœud associe une instruction et la liste des successeurs directs. Et puis il faut aussi que je me donne un point d'entrée, donc PCE, qui appartient à l'ensemble des nœuds du graphe. Et sur cet objet-là, il est très facile de définir une sémantique opérationnelle, petit pas. Il s'agit juste de se doter d'un petit compteur ordinal, PC, point de contrôle, et puis d'un environnement. Alors là, je suis dans un langage très simple, où je n'ai que des variables. Donc je me souviens pour chacune des variables de leur valeur. Et j'exprime la sémantique petit pas de cet objet-là comme avec une relation de transition que j'exprime entre les configurations ou les états qui sont constitués donc d'un point de programme et puis de l'environnement courant. Et pour les états finaux, évidemment, je peux me limiter à la connaissance de la valeur retournée par le programme. Et donc, à quoi ça ressemble les règles sémantiques opérationnelles petit pas sur ce type d'objet ? C'est assez simple à formuler, en fait. Partant d'un état d'exécution PC1 et RAW, donc un environnement RAW, si en PC1 j'ai l'instruction go to PC2, je branche simplement à PC2 sans changer rien à l'environnement. Pour réaliser une affectation, je passe directement à son successeur PC2 et puis je modifie au passage l'environnement en la variable X où je vais lui affecter la valeur de l'évaluation de l'expression E dans l'environnement courant RAW. Pour le if, c'est pas bien plus compliqué, il s'agit juste de déterminer la valeur de l'expression booléenne dans l'environnement courant, et puis selon sa valeur, je branche soit au premier successeur, soit au deuxième, indiqué directement dans l'instruction. Et donc pour le return, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, l'état d'arrivée en fait est simplement la valeur de retour fournie par le programme. Donc la sémantique opérationnelle se formule assez facilement sur ce type d'objet. Je parle du graphe de flow de contrôle de cette manière-là. Il y a déjà plusieurs variantes qui sont proposées du graphe de flow de contrôle. Ici, j'ai mis, et ça se prêtait bien à ce programme-là, mais là, et c'est cette variante-là que je considère souvent. En chaque sommet, je ne place qu'une seule instruction. Souvent dans les compilateurs, il y a ce qu'on appelle des blocs de base. Donc, ce sont des séquences d'instructions qui s'exécutent les unes après les autres. On ne peut entrer que par l'entrée du bloc de base et ne sortir que par la fin du bloc de base. Il y a une autre variante qui est aussi très intéressante finalement, les instructions ne sont pas placées dans les nœuds du graphe, mais sur les arêtes. Voilà. Donc, ici, au if, je passe au point numéro 2 en exécutant, en me souvenant de la valeur, en tout cas de l'expression qui a mené jusqu'à ce point de programme-là. Alors, c'est pas une représentation qu'on trouve souvent dans les compilateurs. C'est plus utilisé dans des contextes d'analyse statique de programme. Donc ça, c'est la représentation intermédiaire qui est utilisée traditionnellement par quasiment tous les compilateurs. Et en fait, les optimisations sur cette forme intermédiaire, elles sont, beaucoup d'entre elles, basées sur ce qu'on appelle une analyse de flot de données, qui a été introduite en 73 et puis étudiée davantage en 76. Et il s'agit d'inférer statiquement des ensembles de faits traditionnellement sur les variables de votre programme, mais plus généralement sur les valeurs qui sont calculées à l'exécution du programme. Donc on peut être intéressé à déterminer quelles sont les variables qui portent une valeur constante au cours de l'exécution, quel est l'ensemble des variables actives, c'est-à-dire dont je vais me servir de la valeur sans les redéfinir entre-temps, quelles sont les possibles définitions de variables qui peuvent atteindre un certain point, etc. etc. Et le cadre idéal pour faire ce genre d'analyse statique, c'est celui-là. Donc on se fixe un treillis dont les éléments appartiennent à D. Et c'est là-dedans que je vais coder, que je vais représenter l'information statique que je vais inférer. Et pour chaque instruction, on définit une fonction de transfert. Donc en chaque sommet PC, je vais définir une fonction qui transforme la connaissance statique que je connais en une autre, et elle représente l'effet de l'instruction. Et ensuite, j'ai juste un système d'inéquations à résoudre pour propager l'information et obtenir une solution à ce système. Et l'algorithme pour résoudre ce système d'équations, C'est un algorithme standard, c'est un algorithme itératif qui utilise une worklist, des nœuds du point de programme auxquels j'ai besoin de continuer de propager l'information. Donc vous partez d'une worklist qui contient en général le nœud de départ sur les analyses avant, et puis tant que cette worklist n'est pas vide, vous continuez de propager les informations. Donc on choisit un élément de cette worklist, on calcule depuis l'information qu'on connaissait en PC, on calcule sa transformée par la fonction de transfert, on obtient une valeur, et puis ensuite cette valeur-là, on va la transmettre à chacun des successeurs de PC. Et on la transmet comment ? En faisant l'union avec ce qu'on savait déjà en PC'. Et si jamais ça a changé, alors on met à jour l'analyse en PC'. Et puis on marque le fait que PC' doit être réanalysé dans la suite. Et donc sous certaines bonnes conditions, on peut montrer que cet algorithme termine et calcule les solutions de ce système. Alors, je vais utiliser un exemple fil rouge pendant l'exposé. Donc, c'est un exemple d'analyse dataflow très très simple qui est celui de l'analyse de constantes, donc, qui est utilisé dans des optimisations telles que propager les constantes, c'est-à-dire réécrire des expressions qui textuellement seraient variables par la constante correspondante dans le code du programme. Ça permet aussi d'éliminer certaines portions de code qui sont inutiles pour le calcul réalisé par le programme. Et donc ça, c'est basé sur le treillis des constantes, donc le treillis à trois niveaux. Et là, sur la droite, j'ai placé un petit exemple de graphe de flow de contrôle. Et sur ce petit graphe de flow de contrôle, ce qu'on peut faire, c'est matérialiser l'ensemble des faits qui sont inférés. Donc là, je marque en chaque point de programme l'information après la convergence de l'algorithme de Kildall. Alors ici, je m'intéresse aux constantes simples, c'est-à-dire que les conditions de branchement ne sont pas considérées pour raffiner l'information que je sais sur la valeur des variables. Une constante, elle est dite simple quand c'est directement allitéral. Donc par exemple, au point numéro 1, vous avez k reçoit 2, évidemment, vous allez inférer que k possède une valeur constante qui est 2. Et puis, il y a tout ce qui est opération sur des constantes simples. Donc un exemple, c'est l'affectation de la variable a au point 3, où, sachant que k vaut exactement, enfin, vaut toujours 2 à ce point de programme-là, vous pouvez déterminer que a vaudra 4 au point suivant. Et étant donné ce résultat-là d'analyse, comment est-ce qu'on justifie sa correction sémantique vis-à-vis de la sémantique du CFG ? On formule ça comme ça. Donc, dans un état d'exécution atteignable, donc PC et RAW, ce qu'on souhaite formuler, c'est que l'analyse au point de programme PC nous donne une information pour X qui approxime de manière correcte, c'est le symbole que je vais utiliser, la valeur courante de X. Donc, par exemple, la constante 3 approxime de manière correcte la valeur 3. Pour n'importe quelle variable, top est une approximation correcte. Et pour aucune des valeurs que je puisse obtenir à l'exécution, bottom est une bonne approximation. Donc ça, c'est le cadre dont on dispose et qui est relativement bien maîtrisé. Et donc justement, les points forts du CFG, ce sont ceux-là. La sémantique opérationnelle est simple à formuler, on la connaît bien et on la comprend bien. Et on a cet outil d'analyse de flot de données qui fonctionne. Alors là, j'ai montré un exemple d'analyse qui fonctionne en avant, donc qui propage les faits en avant dans le programme. Mais en fait, ce cadre-là, il marche aussi très très bien pour tout ce qui est analyse arrière, donc pour faire de l'analyse de vivacité des variables. Et il se prête aussi bien aux graphes qui sont dits réductibles que non réductibles. Donc il n'y a pas de... En termes de correction, il n'y a pas de limitation de ce point de vue-là. Peut-être qu'en termes de précision, il peut y en avoir, on va en parler. Et la correction intuitive, la correction sémantique de l'analyse s'exprime assez bien et se prouve assez facilement en suivant simplement le modèle d'exécution de ce graphe. Donc c'est une technique qui est très mature et qui a été bien éprouvée. On peut programmer beaucoup d'optimisations là-dessus. Ce que j'ai présenté pour l'instant, c'est très très simple, mais on peut faire beaucoup plus. Donc bien sûr, on peut propager les constantes, propager les copies de variables, faire de l'analyse de vivacité, j'en ai parlé. Donc ça va être utile notamment au niveau de l'allocation de registres. On peut éliminer des calculs qui sont redondants. Et on peut aussi déplacer des instructions dans le graphe de flow de contrôle. On arrive à faire ça, y compris sur le graphe de flow de contrôle. Et c'est tellement... c'est une preuve de la maturité de cette technique-là, c'est que maintenant, c'est possible de les implémenter dans des compilateurs vérifiés. Donc il y a évidemment le compilateur Compcert pour le langage C qu'on connaît bien. Il y a récemment... Compcert utilise essentiellement une représentation de graphe de flow de contrôle avec une seule instruction par nœud. Quelques analyses considèrent des blocs un petit peu étendus. Je voulais juste mentionner le travail de ce compilateur-là qui, dans le cadre de Compcert, donc Chamois, étudie des techniques d'optimisation qui considèrent des notions de blocs un petit peu différentes, qui sont des blocs étendus pour pouvoir formuler des optimisations en ayant une fenêtre de travail qui est plus large. Et donc ça permet de faire de l'ordonnancement d'instructions et de réordonner les instructions de manière un petit peu plus souple. Mais il a quand même quelques points faibles, ce CFG. Il y a le fait que sa sémantique opérationnelle se prête assez mal, finalement, à la justification des déplacements globaux d'instructions. Mais ce n'est pas ça vraiment qui va m'intéresser pour la suite de l'exposé. C'est surtout que ce que j'ai présenté, c'est une analyse de flot de données qu'on réalise sur une information de flot de contrôle entièrement. Et finalement, l'information que je vous ai montrée tout à l'heure, on la propage à chaque sommet, le long de chaque arête et pour chaque variable, y compris sur des portions non pertinentes du graphe de flow de contrôle. Et c'est ça, en fait, qui a été un point de blocage au moment où d'autres représentations intermédiaires ont été proposées. Alors... Il y a déjà des solutions pour essayer de contourner le problème, de ne pas propager l'information trop souvent et partout. Là, on peut utiliser une structure de données qui sont soit les chaînes useDef, soit defUse. C'est une structure de données qui est construite elle-même à partir d'une analyse dataflow. ici, je représente les chaînes defUse pour la variable k uniquement. Donc, il s'agit de lier simplement la définition d'une variable à une future utilisation de cette variable. Et de la sorte, on peut propager directement l'effet de la définition sur la portion pertinente, c'est-à-dire au point d'utilisation de la variable. Je peux propager ces faits-là statiquement sur le programme. Et donc, on gagne déjà un petit peu, et il y a des analyses flot de données sur les chaînes useDef et defUse qui ont été proposées. Mais le pire cas est toujours là avec les defUse. Donc vous prenez un petit graphe de cette sorte-là, enfin un sous-graphe de cette forme-là, où vous avez un switch. Vous prenez n définitions et n utilisations, propagées le long des defUse, on va continuer à faire beaucoup de travail. Et la question qui s'est posée à cette époque-là, c'était justement comment est-ce qu'on peut continuer de factoriser davantage les calculs pour gagner en efficacité. Et c'est justement ça ce qui a donné naissance à la forme SSA. En fait. La forme SSA, Static Single Assignment, elle a été proposée à la fin des années 80, Alpern, Wegmann et Zadek. Et en fait, aujourd'hui, elle est très très largement adoptée dans tous les compilateurs pour les langages impératifs. J'en mentionne quelques-uns, y compris ceux qui font de la compilation à la volée. Et en SSA, c'est assez simple finalement à définir. Il s'agit juste d'assurer que chaque variable n'est définie qu'en un seul point du programme. Pour du code qui est linéaire, c'est assez simple à faire. À chaque fois qu'on a une définition, on introduit un nom frais qui correspond à un numéro de version, une nouvelle version pour cette variable-là. Et aux utilisations, on choisit évidemment la dernière version qui a été définie. Pour les points de jonction dans un graphe de flow de contrôle, il y a tout de suite une question qui se pose. Donc le point 7 a été converti en SSA, le point 9 a été converti en SSA. Au point de jonction, quelle est la bonne version de la variable k à utiliser? La réponse c'est ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de l'arc que j'ai suivi au moment d'exécuter le programme. Et donc pour ça, SSA introduit une instruction spéciale qui est la fi-fonction et qui va justement faire cette sélection d'arguments selon le flow d'exécution qui est suivi dynamiquement. Donc, la FI fonction sélectionne K1 ou K2 selon l'arc qui est suivi à l'exécution du graphe de flot de contrôle. On socle le résultat dans la variable K3. Et une fois que j'ai fait ce choix-là, je peux réutiliser librement K3 dans le reste du programme. En termes de modélisation d'objets, ce n'est pas, très très différent de ce qu'on avait pour le graphe de flot de contrôle. Donc je maintiens un graphe des instructions qui mentionne leur successeur direct. Je me souviens aussi de la position de chacun des FI instructions dans le graphe de cette manière-là. Et alors je peux, ici je n'ai qu'une seule fonction FI, je pourrais évidemment en avoir plusieurs. En fait, ce sont des blocs de phi-fonctions qui sont retenus. On en reparlera tout à l'heure. Alors, il y a évidemment une question qui est souvent posée. C'est où est-ce que je mets les phi-fonctions et pour quelles variables ? Donc, sur le petit CFG exemple là, une façon simple de faire, ce serait d'introduire pour tous les points de jonction et pour toutes les variables du programme des phi-fonctions qui font les bonnes sélections. Bon. Donc on obtient ce qu'on appelle SSA maximal. Donc là, j'ai deux variables et deux points de jonction. Donc j'obtiens quatre phi fonctions pour l'ensemble du programme. Alors évidemment, ce n'est pas réaliste, parce que ça augmente beaucoup le nombre de variables du programme, et c'est surtout qu'il y a certaines phi instructions qui ne sont absolument pas nécessaires. Donc je remets SSA maximal sur la gauche, et en fait, je peux raffiner cette forme-là en ce qu'on appelle SSA minimal, qui est c'est la version de base SSA. Quand on parle de SSA, c'est SSA minimal, où les phi fonctions ne vont être placées qu'aux frontières de dominance des définitions des variables. Donc, si on regarde la différence entre maximal et minimal pour cet exemple-là, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de phi instruction pour la variable X, ici. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, toute cette zone du programme-là reste dominée par la définition initiale de x que je suppose m'arriver d'avant, et je ne repasse pas par une autre définition de x. Donc je n'ai pas besoin, en fait, de phi fonction pour cette variable x. En revanche, ici, je garde le besoin d'une phi instruction pour la variable x, puisque effectivement là, je sors en fait de la région du graphe qui est dominée par la définition initiale. Il m'arrive une définition X2 ici, que je pourrais atteindre sans passer par cette branche-là du if. Donc je garde ici une fonction phi pour la variable X. Alors en fait, on peut faire un petit peu mieux que SSA minimal et que les frontières de dominance, où on élague encore un petit peu plus, et en fait on ne génère pas de phi instruction pour les variables qui sont inutiles dans le reste du programme. Donc on couple ça à une analyse de vivacité pour ne pas produire trop de phi fonctions. Alors, donc ça c'était la construction et la définition de l'objet. D'un point de vue sémantique, en fait, au tout début, SSA n'est pas particulièrement vu comme un langage qui pourrait s'exécuter, mais il est beaucoup décrit comme une structure de données, où en fait on ne place que des informations qui sont essentiellement syntaxiques. Et en fait, jusqu'en 2009, c'est considéré comme un problème difficile que de formuler une sémantique exécutable pour SSA dans le cadre de la compilation vérifiée. Et c'est surtout qu'on a également du mal à formuler des propriétés intéressantes qui nous permettraient de raisonner localement sur des informations globales qui sont collectées par la forme SSA. Et en fait, en 2012, il y a eu deux efforts de formalisation simultanés et indépendants, donc un à Rennes avec Concert SSA, l'autre à l'Université de Pennsylvanie avec Bellum. Et là, on a réussi à formuler une sémantique opérationnelle pour SSA qui soit simple et qui soit en accord avec les intuitions qu'ont les gens qui écrivent, les compilateurs. Réussi à formaliser un lemme qu'on appelle le lemme équationnel et qui permet d'associer aux définitions de variables dans le programme des équations entre la variable et son expression. Et à partir de ce moment-là, on a réussi à vérifier les premières optimisations de programme, dont certaines sont absolument fondamentales quand on écrit un compilateur, donc, notamment le Global Value Numbering et Sparse Conditional Constant Propagation, dont on va reparler. Alors, d'un point de vue sémantique, comment on définit la sémantique des instructions d'un programme en forme SSA dans le graphe de flow control ? Les règles sémantiques ne changent absolument pas tant que votre successeur n'est pas un point de jonction. D'accord ? Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est exactement la même. Quand on a un point de jonction, et qu'on est en un programme PC ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter l'instruction en PC et tout de suite après, on va exécuter les filles instructions qui sont placées au successeur en choisissant, en fonction de l'arc que j'ai suivi depuis PC, les bonnes valeurs, les bons arguments de la fille instruction. Et donc d'un certain point de vue, en fait, c'est même pas d'un certain point de vue, c'est les filles fonctions, elles sont non strictes dans leurs arguments. Je n'évalue absolument pas les arguments de droite quand je passe par l'arc bleu, ici. Et ça, ça s'exprime assez facilement par une petite règle sémantique opérationnelle. Donc quand je suis en PC et que je suppose que j'ai un go-to vers un point de jonction J, je passe en J dans un environnement Rho'. Et Rho', comment est-ce qu'il est défini? Il est défini en fait en modifiant toutes les variables qui sont définies par une phi-fonction en choisissant le bon argument de chacune des phi-fonctions. Et pour choisir, vous avez juste besoin de vous souvenir du numéro de prédécesseur, donc il y a une notion importante d'ordre des prédécesseurs dans la représentation, qui est utilisée pour sélectionner le bon phi-argument. Et les points notables, en fait, dans cette règle, alors, il y en a plusieurs. Il y a le fait que l'état sémantique ne garde pas trace du prédécesseur qui est suivi au cours de l'exécution. Et ça, c'était assez important pour nous, parce qu'il n'y avait pas de bonne raison de polluer la sémantique de SSA avec des informations, qui auraient rendu les règles sémantiques difficiles à exploiter. Le deuxième point qui est important, c'est le fait que les phi-fonctions, qui sont toutes présentes dans un bloc, s'évaluent de manière parallèle. Et ça, c'est un comportement des phi-blocs qui est absolument fondamental quand on implémente les optimisations. C'est une hypothèse très forte qui est faite et qui est exploitée par les optimisations et les analyses. Et enfin, là j'ai présenté une règle qui suppose qu'en PC j'ai un go-to. Alors en fait, dans notre compilateur, dans notre middle-end vérifié qui utilise SSA, on assure que seul un go-to peut précéder un point de jonction. De sorte à ce qu'on n'ait qu'une seule règle sémantique qui ait besoin de refléter l'exécution des phi-instructions. Et au passage, on réalise une transformation qui s'appelle la coupe des arcs critiques et qui va nous permettre de résoudre certaines difficultés à la destruction de cette forme SSA. Une fois qu'on a SSA, qu'on a sa sémantique, comment est-ce qu'on raisonne sur la sémantique? On a identifié deux ingrédients de base pour raisonner sur la correction des optimisations qui sont réalisées. La première, c'est une propriété assez structurelle sur SSA, qui dit que vous prenez une variable X qui est définie en PCX, alors n'importe quelle utilisation de cette variable-là sera strictement dominée par PCX. Et donc ça, c'est une propriété qui est très importante, on va le voir par la suite. Alors ça demande quand même d'ajuster un petit peu la définition de ce que c'est qu'une utilisation de variable, notamment pour les phi-instructions. On considère qu'un phi-argument, en fait, il est virtuellement utilisé au prédécesseur, d'accord ? Et ça, c'est important pour que tout tienne debout. Et en fait, c'est une intuition qu'il faut avoir quand on manipule la forme SSA. Et la deuxième, ça c'est une propriété vraiment purement sémantique, où à toute instruction dans le graphe de flow de contrôle qui définit une variable X et E, à toute instruction de cette forme-là, je peux faire correspondre une égalité de valeur entre X et E, mais pas partout, uniquement dans la zone du graphe de flow de contrôle qui est strictement dominée par le point de définition de la variable X. Et donc ça s'exprime formellement de cette manière-là. Donc je reprends la définition, la présence d'une instruction X reçoit E dans le graphe de flow de contrôle. Prenez un état sémantique atteignable, PC Rho. À ce moment-là, vous pouvez dire que la valeur courante de X est égale à l'évaluation de E dans l'environnement courant. Et c'est ça qui permet de raisonner de manière beaucoup plus locale sur la valeur des variables à l'exécution. Et c'est évidemment pas vrai partout, il faut absolument que le point de contrôle où je suis dans mon programme soit strictement dominé par la définition de la variable X. Alors on parlait d'analyse de flots de données et des problèmes que ça avait causé sur le graphe de flots de contrôle. En fait, il y a un cadre spécifique à SSA qui a été ensuite proposé. Et c'est le cadre d'analyse parcimonieuse, donc il fait un petit peu plus que les simples useDef qu'on voyait tout à l'heure. Donc on se donne, comme tout à l'heure, un treillis des approximations. Alors cette fois-ci, l'analyse, alors la partie importante c'est AVAR, là, qui en fait ne sera plus sensible au flot d'exécution, mais qui va calculer une information statique uniquement par variable. C'est-à-dire c'est une information qui sera vraie en tout point du programme, pour chacune des variables. Alors en fait, le cadre qui a été proposé analyse aussi l'exécutabilité des arcs du graphe de flux de contrôle pour exploiter un petit peu mieux les conditions qui sont présentes au niveau des branchements. Alors au niveau de l'algorithme, je ne vais pas le décrire en pseudocode comme j'ai fait pour tout à l'heure, mais ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est aussi un algorithme de worklist, mais là qui manipule deux worklists, une sur les arcs diffuse de SSA, et les autres pour les arcs du graphe de flux de contrôle en forme SSA. Donc essentiellement pour analyser justement l'exécutabilité des arcs. Alors il y a quelques petits trucs pour faire accélérer la convergence de l'analyse en choisissant bien les variables dont vous propagez les informations. Mais ce n'est pas ce qui nous importe ici. Donc étant donné ce cadre-là, comment est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut dire de sa correction sémantique? Donc je reprends la fameuse relation de bonne approximation d'une valeur à l'exécution. Et en fait, donc je vais toujours avoir envie de dire que mon analyse calcule une information pour les variables x qui est une approximation correcte de la valeur à l'exécution. La nouveauté ici, c'est que je ne suis capable et je n'ai besoin que de me souvenir de la correction que pour les variables qui sont définies à un point de programme qui domine le point d'exécution. Et c'est ça qui fait la particularité de ce cadre-là. Et parce qu'on est en forme SSA, on peut parler de la définition de X qui domine le point courant. Alors, je voudrais juste donner un petit aperçu de comment se combinent les différents éléments dont je viens de parler jusqu'à présent dans la preuve de correction de cette invariance sémantique. Donc, je suis dans un état, je suis au point de programme PC. Je connais la correction de l'analyse en point de programme là. J'exécute l'instruction. Comment est-ce que je récupère la correction de l'analyse au point de programme suivant? Donc je suis en PC et j'effectue une affectation en faisant une opération sur différents arguments. Et en fait, les arguments, ils sont définis dans le programme à différents points de programme. Je suis en forme SSA stricte, donc je sais que chacun des arguments ici est défini à un point de programme qui est strictement dominé par PC, mon point d'exécution courant. Du coup, je vais pouvoir réutiliser l'hypothèse que mon analyse était correcte en ce point de programme pour dire que la valeur que j'ai calculée pour chacun des arguments est correcte vis-à-vis de leur valeur à l'exécution. Ensuite, alors évidemment, selon l'analyse qu'on fait, on a des fonctions de transfert qui sont différentes. Donc là, on fait une preuve de correction qui est spécifique à l'analyse. La correction des fonctions de transfert, en fait, elle se montre en utilisant le lemme équationnel dont j'ai parlé tout à l'heure. Si bien qu'au point S, c'est-à-dire au point qui suit, je peux assurer la correction de, c'est-à-dire cet invariant-là, la correction de l'analyse pour la variable X. Et pour toutes les autres variables qui n'ont pas été modifiées, je me repose sur un argument de transitivité de la relation de dominance pour justement récupérer ce qui m'intéressait au point de programme précédent. Et c'est comme ça qu'on termine la preuve de préservation de correction sémantique de l'analyse. Alors, un petit bilan sur SSA. Donc, ça a été un tournant important dans le monde des compilateurs, mais un tournant important qui a été marqué par juste une politique de nommage des variables particulières et l'ajout de définitions par l'intermédiaire des fi-instructions. Et grâce à ça, les gens ont réussi à contourner certains écueils du graphe de flux de contrôle originel, donc sans former SSA. Et au-delà des performances et des problèmes de précision d'analyse, il y a un vrai changement qui est aussi la simplification conceptuelle de toutes les techniques d'analyse et d'optimisation. Et ça a été vraiment un plus apporté par la forme SSA. Alors je mentionne ce livre très intéressant que je vous invite à consulter et qui fait un recueil de toutes les techniques liées à l'implémentation de compilateurs sur la forme SSA et qui vient juste de paraître. D'un point de vue sémantique formel, aujourd'hui, on comprend assez bien ce qui se passe et on a le lemme équationnel qui nous permet de raisonner localement sur les valeurs à l'exécution des variables. Et pourtant, on reste essentiellement basé sur un graphe de flux de contrôle. Les fi-fonctions restent dirigées par le contrôle. La sémantique opérationnelle et les déplacements globaux d'instruction, le problème n'a pas disparu. Et donc finalement la question qu'on peut se poser, c'est que bon, toutes les optimisations que j'ai envie de faire dans un compilateur, elles vont en fait analyser les dépendances entre instructions. Donc comment est-ce que je peux résoudre et mieux m'y prendre pour faire de l'analyse de dépendance. Et donc pour ça je vais passer à une troisième grande famille de représentations intermédiaires qui est la forme Sea of Nodes. Alors, elle a été proposée dans les années 95 par M. Cliff Click. Et donc, l'idée... Alors, c'est pas la première à le faire. Mais l'idée essentielle vis-à-vis de ce que j'ai présenté là par rapport à SSA, c'est de gommer du programme, de la représentation du programme, toutes les dépendances syntaxiques qui sont peut-être des fausses dépendances. Et donc, on passe à une représentation de programme qui est basée sur un graphe, cette fois-ci, de dépendances. Alors il y a plusieurs types de dépendances, des dépendances de données, des dépendances de contrôle, il y a aussi toutes les dépendances d'effets, parce qu'on est dans un langage impératif, il peut y avoir des effets sur la mémoire, il peut y avoir des entrées-sorties. Donc il faut refléter de manière correcte toutes les dépendances qui sont liées à l'exécution du programme. Et en fait, cette représentation intermédiaire, elle est elle-même basée sur la forme SSA, donc on va réutiliser tout un ensemble de techniques quand on travaille sur la forme Sea of Nodes. Quand on est sur, sur ce genre de représentation, en fait, il y a beaucoup d'optimisations qui deviennent assez simples, du moins conceptuellement. Toutes les portions de code inutiles, en fait, ça correspond à des sous-graphes qui sont isolés du nœud de départ, par exemple. Alors, il y a plein d'optimisations qui consistent à réécrire des sous-graphes de cette représentation-là pour normaliser l'expression des calculs. Et peut-être pour choisir des façons de réaliser des calculs qui sont optimales vis-à-vis de l'architecture vers laquelle vous voulez vous envoyer. On peut faire aussi de l'élimination de redondance en partageant des nœuds dans le graphe. Et du point de vue de l'ordonnancement de code, c'est-à-dire la génération de code pour l'architecture cible, là, en fait, elle a lieu très très tard dans la représentation, quand on quitte cette représentation pour produire le code dans la partie back-end. Et donc, on reste dans cette forme-là assez tard. Donc, alors, cette représentation, donc je donne un exemple de graphe de flow de contrôle et à quoi correspond la forme Sea of Nodes dans sa forme simplifiée. Cette fois-ci, on a plusieurs catégories de nœuds. Il y a d'abord les nœuds régions qui en fait décrivent l'ossature générale du graphe du contrôle. Donc c'est ce qui correspond à peu près aux grandes régions du graphe de flow de contrôle qu'on avait avant. Il y a les nœuds de contrôle que je fais figurer en orange ici et qui eux s'occupent de décrire comment je passe d'une région à l'autre. D'accord ? Et puis après il y a toute la partie données qui là décrit comment les calculs de valeurs sont réalisés dans le programme. Et là, un nœud ne contient plus une instruction, mais un opérateur qui manipule des opérandes qui sont eux-mêmes des nœuds. Donc ici, dans la partie donnée, c'est vraiment un graphe de dépendance. Et les nœuds flottent librement. Bien évidemment, pas les phi-instructions, puisque les phi-instructions, j'ai toujours besoin de me souvenir de quel argument je dois sélectionner pour faire l'affectation au fil. Alors il y a plein de variantes qui sont rencontrées dans la nature, notamment dans il y a des nœuds en fait parfois qui reflètent certaines structures de contrôle du langage source et qui sont exploitées par les analyses pour garantir certaines bonnes propriétés de structure du graph Sea of Nodes. C'est une représentation intermédiaire qui est utilisée dans les compilateurs à la volée et donc parfois on a besoin de nœuds qui reflètent certaines informations d'ordre dynamique sur l'exécution, donc des nœuds de contexte, des nœuds qui sont utilisés pour implémenter les phases de désoptimisation quand on se rend compte que l'optimisation qu'on avait fait à la volée doit être rétractée. Et puis enfin, ici j'ai orienté les arcs dans un certain sens. En fait, il y a beaucoup de discussions sur l'orientation des arcs dans la description des représentations intermédiaires. Globalement, dans les implémentations après, on a souvent besoin de traverser ces structures-là de manière bidirectionnelle. Donc j'y prêterai pas trop attention dans cet exposé. Mais le gros problème, c'est que le modèle d'exécution est décrit de manière très informelle et que c'est assez difficile de comprendre comment se comporte une représentation comme ça. Alors, ici, je vous montre juste un exemple de spécimen réel, donc tiré de la représentation Graal. C'est une variante de Sea of Nodes un petit peu moderne. Donc, alors, c'est un exemple qui tient quand même dans le transparent, donc c'est un exemple qui reste assez simple. Et il conserve cette représentation intermédiaire assez longtemps dans le processus de compilation. Et donc là, cet exemple que je vous montre, il est obtenu après plusieurs phases de compilation où on passe progressivement d'une représentation de plus en plus bas niveau. Donc en particulier, il y a des chargements mémoire et puis des calculs d'offset pour juste lire le champ d'un objet. Il y a aussi des nœuds qui sont liés à la gestion des exceptions, les vérifications de bornes et puis les nullités de référence. Là, c'est pour Java. Il y a aussi des nœuds qui contiennent ce sont des nœuds presque d'annotation, en fait, qui vont permettre de transmettre de l'information d'analyse de typage ou d'analyse faite sur cette forme-là. Donc, ce sont des nœuds tampons. Et puis, il n'y a pas de nœud région à proprement parler, mais on retrouve quand même certains nœuds dédiés qui décrivent l'ossature du contrôle. Donc comment est-ce qu'on fait pour définir une sémantique pour ce genre d'objet-là ? La partie donnée, ce qu'on souhaiterait faire, c'est évidemment évaluer le sous-graphe de manière dénotationnelle, comme on a vu juste dans le cours précédent, en traversant le sous-graphe. Le problème, ça va être qu'on peut avoir des cycles de dépendance dans cette partie donnée. Et en fait, les cycles de dépendance ne sont introduits que par les NoFi. Ça, c'est une propriété qu'on peut montrer. Donc finalement, on va couper ces cycles de dépendance au niveau des phi instructions. Et dans l'environnement d'exécution, on ne va pas se souvenir de la valeur de tous les nœuds, on va simplement se souvenir de la valeur des nœuds qui sont une phi instruction. Et une fois qu'on a ça, on peut évaluer n'importe quel nœud donné en traversant ce que j'ai appelé un sous-graphe, mais qui finalement est un sous-arbre d'expression de manière récursive, sans aucune difficulté. Et dès qu'on tombe sur un nœud phi, on consulte l'environnement courant. Pour la partie contrôle, je ne vais pas donner plus de détails parce que globalement, on a un état sémantique où le point de programme est maintenant un numéro de région et un environnement raw comme défini précédemment. Et puis la sémantique est opérationnelle à la SSA, c'est-à-dire qu'en passant d'une région à l'autre, on va mettre à jour la variable, on va mettre à jour l'environnement en mettant à jour la valeur associée aux nœuds phi qui sont portés par cette région-là. Et un point qu'on peut noter quand même, c'est que les nœuds donnés, en fait, ils sont la plupart flottent, et je peux les évaluer au moment où j'en ai besoin, quand j'arrive dans une région concernée qui demande leur calcul. Alors, pour raisonner sur la correction sémantique des optimisations globales qui sont faites sur cette représentation intermédiaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de récupérer tous les principes de raisonnement qu'on avait réussi à comprendre sur la forme SSA. Donc on réutilise la notion de dominance, cette fois-ci uniquement entre les nœuds régions du graphe et pas entre tous les nœuds, puisque les nœuds de données flottent, donc ils ne sont pas forcément attachés à une région. Donc on se restreint à une notion de dominance entre les régions. Et pour les nœuds donnés, comment est-ce qu'on s'en tire ? On s'en tire en fait en se rapportant à leur phi dépendance, c'est-à-dire les nœuds phi que j'atteins en analysant leur dépendance de données. Et on récupère deux résultats qui sont en fait l'équivalent du lemme équationnel qu'on avait tout à l'heure pour la forme SSA. Donc à quel moment un nœud valeur est défini, un nœud donné est défini ? Il est défini dans un état atteignable R rho si toutes ces phi dépendances dominent R. Et ça, c'est une propriété qu'on obtient à l'exécution de la forme Sea of Nodes. Et puis, une fois qu'on a une valeur, on peut s'interroger sur pendant combien de temps cette valeur elle est préservée et non modifiée. Elle est préservée dans toutes les régions qui sont dominées par ces phi dépendances. Donc là, on a vraiment un miroir de ce qu'on avait avec le lemme équationnel sur la forme SSA. Et ça nous permet en fait déjà de montrer des optimisations qui sont assez importantes, comme les limitations de vérification redondantes. Donc ça, c'est typique du genre de vérification et d'optimisation que vous avez besoin de faire dans la compilation de programme Java, où vous passez votre temps à vérifier que les références sont accédées sans être nulles. Ok, et donc... On a beaucoup parlé de contrôle, finalement. Je voudrais progressivement glisser vers les données. Et pour ça, on va faire un petit retour sur SSA, donc en forme graphe de flow de contrôle, donc pas de Sea of Nodes. Et on va regarder la sémantique des phi-fonctions. Donc je dois suivre cet arc-là, bleu ou rouge, pour déterminer le sens de la phi-fonction. Et le critère de sélection qui est utilisé pour choisir K1 ou K2, en fait, il est totalement... Alors, en tout cas, il est implicite dans la fille instruction. Il faut que je connaisse les prédécesseurs de cette fille instruction. Il faut que je connaisse l'ordre des prédécesseurs dans le graphe. Et c'est un critère qui est global, parce qu'en fait, j'ai choisi l'arc bleu ou l'arc rouge en fonction d'une décision qui a été faite beaucoup plus tôt dans l'exécution du programme. En fait, ce problème-là a été résolu d'une certaine manière par la forme gated SSA, où on ne va plus avoir de phi instruction, mais on va ajouter aux phi instruction des prédicats. Et en fait, c'est le prédicat qui va me permettre de choisir complètement localement et de manière totalement explicite le bon argument de la phi instruction. Et en fait, de manière un petit peu plus générale, si on réfléchit à ce que réalise ce prédicat, il convertit une dépendance de contrôle en une dépendance de données. Et c'est ça qui rend la forme gated SSA intéressante. Alors, en gated SSA, le but, c'est de mieux expliciter les dépendances de données et de contrôle. Et pour ça, il y a trois instructions. On ne va plus avoir des filles, mais on va introduire des nouveaux noms, parce que les fonctions se comportent vraiment bien différemment. Donc, au point de jonction que j'appelle simple, on va avoir un gamma, donc qui est l'ancien phi, mais là, cette fois-ci, où j'ai un prédicat associé à chacun des arguments et qui va me permettre de sélectionner le bon argument. Et là, on peut obtenir une sémantique qui est complètement guidée par les données en évaluant les prédicats pour choisir le XI. Au point de jonction, qui sont des têtes de boucle, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que si on réfléchit, on ne trouvera pas de bons prédicats qui puissent distinguer le moment où je rentre dans la boucle du moment où j'itère. Je reviens à la tête de boucle après une itération. Et alors en fait, quand il y a des boucles imbriquées, ça demande aussi de pouvoir recommencer une boucle. Donc là, en fait, il n'y a pas de bon prédicat qui va me permettre de distinguer mes deux arguments. Donc là, la sémantique, elle reste guidée par le contrôle, on n'a pas forcément le choix là-dessus. Et donc j'aurai un mu qui va sélectionner soit la valeur initiale pour commencer la boucle, soit la valeur que j'ai obtenue après avoir rejoint la tête de boucle. Et il y a un troisième nœud qui est ajouté par gated SSC, qui est la sortie de boucle. Donc à une sortie de boucle, ce qu'on fait, c'est qu'on... Alors là, on va casser les dépendances entre différentes utilisations pour pouvoir les distinguer. Donc c'est un nœud état, et en fait le nœud état va nous permettre de distinguer les usages qui sont faits de cette variable-là, qui est en fait une variable définie en tête de boucle et donc utilisée dans la tête dans la boucle, des usages de cette variable xmu en dehors de la boucle. Donc c'est pour ça ici qu'on va introduire le x état. Et donc le prédicat p ici indique quand xmu, qui est en fait une valeur définie par un mu, quand est-ce que xmu a atteint sa valeur finale après la dernière itération. Et alors gated SSA, l'état de l'art est assez large en fait. Il a été donc le premier début, c'est la fin des années 80, avec le programme Dependence Graph, programme Dependence Web, qui est un raffinement. Et puis ensuite, les gens se sont posé des questions sur la façon dont il fallait construire les prédicats et quel type de prédicat je devais indiquer dans les phi instructions. Et en fait, c'est appliqué très vastement. Donc, dans le domaine de l'optimisation, on va dire standard, mais aussi on retrouve des travaux qui utilisent la forme gated SSA pour valider sémantiquement la correction a posteriori de transformations qui ont été réalisées sur deux programmes. Donc ils se servent de gated SSA comme d'une espèce de représentation sémantique du programme. Et si avant et après j'ai la même forme gated SSA, ça veut probablement dire que l'optimisation est correcte. Alors ça a été utilisé aussi dans un autre domaine, donc là c'est pour de la production de code pour GPU, donc là ça fait écho au séminaire précédent de Caroline Collange. Et puis très récemment en synthèse de haut niveau, j'en reparlerai peut-être un petit peu par la suite. Alors pour nous, le principal problème, ça a été vraiment de comprendre ce que c'est qu'un prédicat, comment je le définis, quel type de prédicat je mets dans les portes, et évidemment définir la sémantique de cette forme gated SSA. Et d'assurer en fait... La correction sémantique de la génération de gated SSA avant même de pouvoir parler d'analyse ou de transformation. Donc les caractéristiques sur un graphe de flow de contrôle, c'est... alors le CFG, en fait, il est préservé, il ne va pas changer beaucoup. Aux têtes de boucle, donc ici j'en ai une, aux têtes de boucle, un phi devient un mu. En sortie de boucle, j'introduis un état et je renomme au passage toutes mes variables parce que j'ai introduit une nouvelle définition pour x ici. Au point de jonction, les phi, donc un point de jonction simple ici, qui n'est pas une tête de boucle, un phi devient un gamma avec cette fois-ci les prédicats qui vont me permettre de choisir, en fonction du chemin qui est suivi dans le graphe de flow de contrôle, la bonne valeur de l'argument. Et en fait, les prédicats, ils sont syntaxiques. Alors là, on peut se poser plein de questions sur la façon de représenter ça efficacement dans la représentation intermédiaire. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que, d'une certaine manière, ils figurent dans la représentation intermédiaire. Et ça, ça permet en fait de définir la sémantique d'une fonction gamma indépendamment des numéros d'ordre des prédécesseurs. Et c'est ça qui compte. Alors, une difficulté, c'est que les conditions que je vois apparaître dans le prédicat, en fait, dans les prédicats, elles, d'une certaine manière, on doit devoir montrer qu'elles sont préservées, parce qu'elles ont été choisies plus tôt dans l'exécution du programme, et là, je vais devoir les réévaluer pour pouvoir faire un choix sur l'argument que je sélectionne. Alors, on pourrait se dire, bon, mais je suis informé, c'est ça, donc je vais me baser sur des raisonnements de dominance pour me garantir que les conditions sont préservées. En fait, ça ne suffit pas toujours. Cet exemple-là, en fait, est simple. Mais on peut construire des graphes dans lesquels les prédicats font intervenir des variables qui ne sont... des chemins qui ne sont jamais exécutés et qui ne dominent pas... et des variables qui ne dominent pas les points de considération. Donc, pour construire ces prédicats, en fait, on se base sur un algorithme qui a été proposé par Sargent dans les années 80. Et en fait, le principe, c'est quoi ? C'est en PC gamma, là où j'ai besoin de construire un gamma, je vais calculer une expression de chemin entre un dominateur de PC gamma et chacun des prédécesseurs immédiats du point de jonction. Alors, éventuellement, je vais avoir besoin de refléter la condition que j'ai vue sur l'arc là, qui précède le prédécesseur. Qui sur l'arc depuis le prédécesseur. Pardon. Mais ici, j'en ai pas besoin, parce que dans CompCRTCSA, on assure que ici la condition est toujours vraie. Et comment est-ce qu'on fait pour prouver la correction sémantique de la construction des prédicats ? On se base sur deux propriétés. D'abord, les prédicats doivent être cohérents vis-à-vis du CFG sous-jacent, c'est-à-dire qu'au point de programme PC gamma, il y a au moins un des prédicats qui est satisfait. Ça me permet de faire un choix. Et puis ensuite, il y a exclusion mutuelle des prédicats, c'est-à-dire que je fais le bon choix. D'accord ? Donc il n'y a qu'un seul prédicat qui sera satisfait, et donc je vais être capable de faire un choix parmi mes différents arguments. Et comme les prédicats peuvent faire intervenir des variables qui sont non définies et des chemins qui sont non exécutés, en fait, j'ai besoin d'associer une sémantique en logique à trois valeurs pour ces prédicats. Je suis donc un prédicat s'évalue soit à vrai, soit à faux, soit est indéfini. Et je suis obligé de considérer ces cas-là pour pouvoir avoir un reflet fidèle du programme en SSA. Et juste en se basant sur la propriété de cohérence et d'exclusivité, on arrive à montrer la validité de la génération des prédicats avec la correction sémantique de la génération de gated SSA. Donc très rapidement, si on prend un tout petit peu de recul sur le contexte d'introduction de gated SSA du programme Dependence Web, ça a été fait en fait à l'époque où une grosse problématique c'était la parallélisation de code et également la compilation pour des architectures flow de données. Et en fait, c'est une citation tirée d'un article des auteurs du programme Dependence Web qui est en fait une version augmentée de gated SSA. Et ils nous disent ceci, il y a un clivage très fort en fait entre les trois modèles d'exécution, dirigés par le contrôle, dirigés par les données et dirigés par le besoin ou par la demande. Je ne sais pas exactement comment traduire ça. Et c'est difficile de passer d'un modèle d'exécution à l'autre. Et justement, en fait, la force du programme Dependence Web, ça a été de se prêter facilement à une interprétation dirigée par le contrôle, dirigée par les données et dirigée par la demande. Alors en fait, c'est justement ce qui a été réutilisé très très récemment en synthèse de haut niveau, donc qui se base sur le programme Dependence Web, pour passer d'un programme impératif à des circuits flow de données, et qui ont la caractéristique de ne pas être ordonnancées de manière statique. Donc leur modèle d'exécution est entièrement dirigé par les données, donc les composants en fait s'échangent des petits jetons, et ils utilisent un protocole de négociation pour s'assurer que les jetons sont envoyés au bon moment et transmis au bon moment. Et en fait, ça, c'est le sujet d'un travail en cours à l'ERISA, donc avec Tony Lowe, un doctorant, et puis Sandrine Blasi. Donc on va se baser sur notre formalisation et tout ce qu'on a compris de la forme gated et CSA, augmenter ça vers le programme Dependence Web, et puis essayer de faire le lien entre ces deux modèles d'exécution dirigés par le contrôle et dirigés par les données. J'en arrive à ma conclusion. Donc, les représentations intermédiaires en compilation, là ce que j'ai montré c'était essentiellement pour des langages impératifs. On a la base historique très très solide du graphe de flow de contrôle, et ce que j'ai présenté c'est qu'il a été enrichi progressivement selon les besoins de l'analyse et d'analyse et d'optimisation. Alors on peut distinguer ces deux grandes familles, donc SSA qui a marqué un réel tournant, et puis le graphe de dépendance dans lequel je place Sea of Nodes, Gated SSA, Programme Dependence Web. Et finalement, si on réfléchit à ce qu'elles essayent de faire, c'est qu'elles essayent de représenter syntaxiquement les dépendances sémantiques qu'elles ont besoin d'analyser au fur et à mesure de la compilation. Soit pour optimiser le programme, soit pour générer du code machine. Et en particulier, représenter syntaxiquement celles de contrôle, les dépendances de contrôle. Alors ça permet d'oublier certaines fausses dépendances de contrôle et puis de garder celles qui sont réellement nécessaires. Et l'enjeu fort, en fait, pour une représentation intermédiaire, c'est vraiment de rester exécutable, c'est-à-dire si on n'arrive plus à l'exécuter, c'est probablement qu'on a oublié une dépendance, quelle qu'elle soit, donnée, effet ou contrôle. En compilation vérifiée, donc évidemment, ces 15 dernières années, elles ont été marquées par des progrès considérables en la matière, donc notamment le compilateur vérifié CompCert pour le langage impératif C. Il y a aussi des avancées qui ont été réalisées dans le domaine de la compilation vérifiée pour les langages fonctionnels, concurrents, même les langages réactifs. Mais du point de vue des formalisations de représentation intermédiaire, alors il y a des jalons qui sont déjà là, soit très bien posés comme le CFG, soit mieux compris comme SSA, mais il y a encore beaucoup d'autres sujets à exploiter et très intéressants qu'on souhaite explorer par la suite. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.